Salut, salut, bienvenue dans votre émission préférée, c'est l'After FC, il est 13h, c'est en direct sur toutes les plateformes digitales de RMC Sport et aujourd'hui on va parler droit télé et avec notamment Ligue 1 Plus, on va parler du bilan de la saison 1, de l'intersaison et de la saison 2 à venir, on se retrouve tout de suite. Et pour en parler aujourd'hui, on a un casting de rêve parce que justement le but de l'émission c'est de comprendre et d'apprendre ce qui va se passer et qui dit casting de rêve dit Nico Pelletier. Ça va Nico ?
Salut les amis, salut à tous.
Et on a un invité exceptionnel aussi, c'est Jérôme Cazadieu, le directeur éditorial et marketing de Ligue 1 Plus LFP Média. Merci d'être avec nous.
Bonjour à tous.
Alors on a plein de questions à évoquer ensemble, notamment on va commencer par l'actualité de Ligue 1 Plus, c'est ce week-end avec une journée, la 31e en clair sur Ligue 1 Plus. Pourquoi cette journée 31 en clair? Pourquoi maintenant? Pourquoi?
On a annoncé à l'été dernier la création de la chaîne. On a partagé avec les clubs un peu les objectifs qui étaient les nôtres. Donc c'était à la fois des objectifs de parc moyen, de chiffre d'affaires. On sait qu'on va faire l'année. Voilà, on va faire même mieux que ce qu'on avait présenté. Donc ça c'est plutôt un élément qui est positif. C'est pas suffisant par rapport à ce que les clubs ont pu connaître les années d'avant. Donc on s'est dit que c'était quand même l'occasion de faire une opération qui a jamais été faite. Hein. De mettre 8 matchs sur 9 en clair de Ligue 1. Je pense que souvent on a été critiqué parce qu'il fallait avoir 2-3 abonnements pour trouver tous les matchs, le match de son club, etc. Et là on s'est dit, dans la mesure où on va récupérer l'année prochaine l'exclusivité et l'intégralité de toute la Ligue 1, c'était un moyen de donner à voir à ceux qui n'ont pas encore testé Ligue 1 Plus ce que nous sommes. Et je trouve que cette journée est pas mal parce qu'elle est calée un peu avant les deux multiplex. On a une fin de saison qui est assez exceptionnelle, donc il y a un intérêt je pense pour les fans de foot.
C'était impossible de faire la 34e journée en direct et en gratuit.
Alors en fait, le problème, c'est que la 34e journée, elle n'est pas représentative de ce qu'on est tout au long de la saison. C'est-à-dire que la 34e, tu vas avoir un multiplex qui va être très sympa. On sait que le multiplex, les Français adorent et les fans de foot adorent le multiplex. Nous aussi, on adore le multiplex. Mais l'idée, c'est de montrer quand même qu'est-ce qu'on fait le vendredi, qu'est-ce qu'on fait le samedi, qu'est-ce qu'on fait le dimanche, à quoi ressemble aujourd'hui une grille de programme sur Ligue 1 Plus. Quand même, elle va être amenée à évoluer la saison prochaine parce qu'on va faire évoluer la programmation des matchs. Mais c'était vraiment de montrer la variété de ce qu'on est capable d'offrir. Donc c'était plus, à mon avis, intéressant, intelligent de le faire sur une journée classique.
Et est-ce que cette J31, c'est la journée la plus importante de l'histoire de Ligue 1 Plus après la première journée?
Je ne sais pas si c'est la plus importante, mais c'est une journée où on a quand même l'occasion d'aller chercher du public en plus. Tous nos distributeurs ont joué le jeu. Passer en clair, ce n'est pas quelque chose toujours de simple pour des distributeurs parce qu'ils ont des ingénieries techniques qui sont un peu complexes. Donc on espère que les gens vont venir. C'est assez simple. Hein. Il faut aller, si par exemple vous allez sur la plateforme Ligue 1 Plus, vous vous enregistrez. Vous allez avoir un parcours assez simple qui va vous amener en fait sur le week-end. C'est ouvert en gratuit du vendredi en fin de journée jusqu'au dimanche soir et quelque part nous derrière on pourra interagir avec vous en vous montrant, en vous demandant, en vous proposant de nous rejoindre du côté des abonnés d'ici la fin de saison. Il y a des offres qui sont existantes ou la saison prochaine en fonction de l'intérêt que vous aurez pour notre chaîne.
Alors il y aura 8 matchs sur 9 donc sur Ligue 1 Plus et donc tous les 8 matchs en clair. Le seul match que vous n'aurez pas c'est celui qui est chez nos confrères de Bein Sports et Lyon Angers.
C'est ça.
À 15h samedi. Est-ce que ce week-end, il y aura des petites surprises en plus de d'habitude à prévoir?
Oui, alors les clubs ont bien répondu, donc ça c'est chouette. On va proposer un maximum de séquences assez fortes. On aura des séquences, je pense, sur le premier match. On aura peut-être une causerie de coach juste avant dans le vestiaire, juste avant
le Brest-Lens.
Juste avant, voilà, c'est possible. On va essayer de poser des micros lors des échauffements sur des joueurs, des entraîneurs adjoints, des préparateurs physiques, parce que ça on l'a déjà fait plusieurs fois cette saison et ça marche bien. Ça te permet vraiment d'avoir une vraie immersion dans le direct quelque part. Voilà, on va aussi déployer quelques nouveaux moyens technologiques. Alors on va remettre une Spider par exemple sur le match du dimanche soir entre Marseille et Nice. On va redéployer également, alors on le fait aussi pour Bein, mais on le fera également pour le match de l'affiche du dimanche soir, la sonorisation de l'arbitre. Voilà, donc l'arbitre pourra, alors évidemment c'est toujours suspendu au fait que Il se déplace vers l'écran de VAR, etc. Donc parfois, il y a eu un peu de déception parce qu'on l'attendait, mais je trouve que c'était plutôt une innovation assez sympa. La semaine dernière, vous l'avez eu sur Lyon. Et voilà, ça, pour moi, ça éclaire le jeu. Je trouve que ça apporte quelque chose aussi pour les arbitres dans, je dirais, le côté pédagogique des décisions dans les discussions. Je pense que ça peut amener aussi à faire évoluer à terme avec la REFCAM qu'on a testé cette saison. Je dirais le comportement peut-être des joueurs, parce qu'ils vont savoir qu'ils vont être vus, ils vont être entendus, donc ils vont devoir un peu plus se réguler et voilà, donc on a pas mal de choses qu'on va proposer et on a quelques entretiens qui sont très sympas. Alors vous avez eu un bel entretien avec Medina hier, nous avons aussi un entretien, vous verrez, il y a une séquence qui est assez forte, voilà, je pense qu'il marquera un peu, voilà, le week-end, et à mon avis qui sera assez reprise par sur les réseaux sociaux, donc on a vraiment tout ce qui fait le sel aujourd'hui de la chaîne qui sera déployée tout le week-end.
Donc tous les clubs vont jouer le jeu pour le week-end.
Oui, tous les clubs vont jouer le jeu, tout à fait.
Même le PSG.
Le PSG a joué le jeu quand même cette saison. Hein. Si vous regardez le nombre, par exemple, d'entretiens qu'on a eu, là on a fait un portrait de Safonov il y a pas très longtemps. On a démarré la saison avec Vitinha. Donc on aimerait toujours avoir un peu plus. Je vois aussi ce qui est donné aux autres médias en règle générale. Donc je pense pas qu'on ait été mal servi. En revanche, ce sur quoi on travaille avec eux et avec les autres clubs, c'est voilà, de pérenniser, je dirais, un certain nombre de dispositions qu'on a mis en place depuis le début de la saison sous forme de tests en termes d'accès au vestiaire, d'accès à l'entraînement, de sonorisation, enfin tout ce qui fait qu'on améliore, je dirais, la tension du direct. Et ça, l'année prochaine, voilà, on va devoir passer un cap et le PSG devra suivre comme les autres.
Alors, petite erreur de ma part, hein, c'est Lyon-Auxerre qui sera sur Bein Sport et ce sera Angers-Paris Saint-Germain qui sera sur Ligue 1+. On avait aussi beaucoup de questions à vous poser sur notamment Nicolas de Taverneau qui, voilà, a annoncé son départ en fin de saison. Oui. Est-ce que vous avez déjà commencé, vous avez déjà peut-être des noms, des profils pour le remplacer? Est-ce que vous savez quand est-ce que son successeur sera annoncé?
Alors, j'ai pas d'information. La seule information que j'ai, c'est que Nicolas quittera son poste à la fin de la saison, donc au lendemain du barrage retour Ligue 1, Ligue 2. Voilà, il y a de toute manière, voilà, un travail qui est fait, ce qui a été largement documenté par des médias comme le vôtre ou d'autres, sur le fait qu'il y a des candidats et qu'il y a des candidatures qui sont actuellement étudiées. Voilà, j'ai pas d'infos particulières sur le sujet.
Qu'est-ce qu'il a apporté cette saison comme vision sur la chaîne, parce que vous allez lancer la chaîne en moins de 2 mois? Qu'est-ce qu'il a apporté comme vision de Taverneau là-dessus?
Nicolas, il a apporté évidemment un savoir-faire qui est assez unique, hein, d'avoir une vision globale, projetée, où immédiatement il a vu, voilà, qu'il fallait lancer la chaîne parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. Voilà. Contrairement à ce qui a été dit, la chaîne est lancée parce qu'il n'y a pas d'autre solution que la création de cette chaîne. Il a pensé à la fois, je dirais, le produit éditorial sur lequel j'ai travaillé avec les équipes, mais également la distribution. La distribution, très très vite, il a pensé à l'hyper-distribution. Et ça a été, comment dire, je dirais, une clé de notre succès, puisque aujourd'hui on a 11 distributeurs qui proposent Ligue 1 Plus sur leur canaux. Et puis pareil, on s'est aussi immédiatement penché sur l'aspect purement, je dirais, digital, techno. Il était hors de question qu'on fasse une chaîne juste en linéaire, une chaîne assez classique. Il fallait qu'on soit une plateforme, avec des réseaux sociaux qui soient solides. Et donc je pense que ça, on a été capable de le faire sous son impulsion. C'était vraiment cette vision globale. Et après, je dirais qu'il a aussi une vision de ce que doit être quelque part un produit de divertissement grand public qui a historiquement une base de fans qui était importante, et que cette base de fans, il fallait la réveiller, quoi, quelque part. Donc je dirais qu'on a identifié un certain nombre de marches pour y accéder, pour y aller, et au final c'est lui qui a présenté au club, à la fois dans le collège Ligue 1 et également en conseil d'administration, les projections pour la première année. On est un peu au-dessus de la plaque, voilà, mais donc ça veut dire que toutes ces projections étaient bonnes, quoi. Donc il y avait une vision assez concrète, entre guillemets, du projet tel qu'on pouvait le déployer.
par rapport à son départ. Est-ce qu'il vous a peut-être demandé une dernière doléance? Il vous a donné des conseils pour la suite, dit qu'il fallait peut-être prendre certaines directions? Si oui, lesquelles? Est-ce que voilà, il vous a parlé de projets qu'il aimerait voir aboutir la saison prochaine?
Après, Nicolas, il n'est pas encore parti, mais il est quand même toujours bien en place. Mm-hmm. Voilà, donc on travaille comme s'il partait pas, hein, aujourd'hui. Voilà, on travaille sur plein de sujets. Évidemment, comment on peut se renforcer éditorialement sur la saison 2, comment on peut améliorer la plateforme avec une meilleure ergonomie, un parcours pour s'abonner qui est plus simple, de meilleures interactions. On réfléchit aussi à devenir encore un peu plus global. Je pense qu'on a réussi pas mal de choses. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut encore améliorer, c'est comment on est capable de créer un peu plus de passerelles évidentes, je dirais, pour les consommateurs entre notre chaîne en ligne, enfin notre chaîne, notre plateforme, nos réseaux sociaux, notre digital, tous les assets qui sont les nôtres, puisque sur le digital, la Ligue avait racheté MPG, MPP, qui sont des jeux de fantasy ou de prédiction, voilà, où on, à mon avis, on a encore des passerelles à améliorer. Donc voilà, c'est sur tous ces sujets-là, en fait, on travaille évidemment sur l'abonnement la saison prochaine, même si je peux rien vous révéler aujourd'hui parce que rien n'est arrêté et que c'est des sujets de discussion. Donc voilà, tous ces sujets-là sont ouverts aujourd'hui et ils sont portés avec Nicolas.
Est-ce qu'on aura le droit quand même à une petite exclue ici pour la saison prochaine, d'ici la fin de l'émission, une petite?
Sur les prix, ce sera pas possible parce qu'on les connaît pas, mais sur le reste, si je peux vous donner. Je ne sais pas, je peux pas. Non, le but c'est pas de les faire exploser, bien évidemment, mais aujourd'hui il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, donc voilà.
Parce qu'au début, au lancement, ça a été votre force de proposer un prix comparé à DAZN l'année dernière qui était parti sur un prix très haut. Ouais. Le prix a été très accessible sur la première saison. Le but, c'est pas de le faire exploser, même s'il y a les 9 matchs en exclusivité la saison prochaine, c'est pas de le faire exploser.
Alors, nous, aujourd'hui, on s'est lancé, si on reprend un peu l'historique, on s'est lancé avec une offre promotionnelle, voilà, avec, on va dire, 3 gammes d'offres. Une offre avec engagement, une offre sans engagement, une offre pour les jeunes, qu'on était les seuls à être en capacité à opérer techniquement. Sur l'offre avec engagement, on a fait une promotion assez costaud, puisqu'on avait fait une promotion... un discount de 5 euros sur les 3 premiers mois. Donc voilà, donc c'est des choses où on a été capable d'avoir une forme d'expérience sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. La réalité, c'est que l'année prochaine, en fait, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce que c'est la première fois de l'histoire, voilà, que un diffuseur va avoir l'intégralité des matchs de Ligue 1 dans un même abonnement. Avant, on a oublié, mais à l'époque de Canal+, il fallait avoir un abonnement supplémentaire. Il fallait avoir un Canal Foot, ou parfois c'était aussi du pay-per-view, etc. Donc ça, je pense que ça a une valeur qui est assez inestimable, en fait, quelque part. Ça répond aussi à un besoin qui a souvent été manifesté par vos auditeurs régulièrement sur la dispersion, de l'offre sur différents diffuseurs. Voilà, on a tout ensemble. On a quand même d'autres choses à proposer. On n'a pas que un 9e match. On est en discussion avec la fédération pour la Ligue 3. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais on a bon espoir d'y arriver, ce qui nous permettrait en fait d'avoir, je dirais, un droit supplémentaire. Voilà, c'est en cours, c'est encore en cours de discussion. Aujourd'hui, les choses ne sont pas faites, mais voilà, on a aussi fait une évolution importante sur la programmation. Voilà, la programmation la saison prochaine est une programmation qui a vocation en fait à créer des rendez-vous qui soient plus clair et plus symétrique pour les abonnés. Donc c'est d'avoir déjà 3 primes à 20h45, le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est de faire en sorte aussi de ramener, on parlait du multiplex tout à l'heure, nous on adore le multiplex. Le multiplex, c'est vraiment une des révélations de la saison en termes d'audience pour nous, ça marche très très bien. On sait que le multiplex, historiquement, il était le samedi soir, ce qui a nourri pendant des années les radios et aussi parce que ça correspond aussi, je dirais, à un usage. On sait que le samedi soir, il y a des programmes familiaux, on sait que les gens sortent aussi, etc. Donc on trouve que c'est un programme qui est bien adapté, je dirais, à la cible. Donc on aura 4 matchs qui auront lieu le samedi soir à 20h45. Donc ça veut dire que vous allez avoir 3 primes à 20h45, puis vous prendrez l'antenne à 17h15 le samedi. Et le dimanche, je vous prendrai à 15h, puis dès 7h15. Donc vous allez avoir, comment dire, une grille de programme qui va être beaucoup mieux optimisée, je pense, pour les fans de foot.
Alors, on va y revenir justement sur cette programmation de la saison prochaine. On va aussi parler, par rapport à ce que vous disiez sur les discussions de cet été. Il y a normalement y avoir des matchs amicaux de ce qu'on a cru comprendre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qu'il y aura rapidement? Parce que le temps défile, il faut qu'on revienne sur la saison.
Ouais. Alors sur la saison, on a évidemment des discussions actuellement avec les clubs. Donc on a eu tous les clubs, je pense, la semaine prochaine. Tous les matchs ne sont pas arrêtés, les dates ne sont pas arrêtées, les lieux ne sont pas arrêtés pour les matchs amicaux. On pense qu'on aura entre 20 et 25 matchs amicaux à proposer entre la mi-juillet et la mi-août, avec des matchs que je ne peux pas aujourd'hui dévoiler parce que ça relève des clubs, de la communication des clubs de l'annoncer, mais avec des matchs de très bon niveau.
Mais c'est surtout que vous ne pouvez pas le dévoiler parce que le classement n'est pas encore établi pour la saison prochaine, en fait.
Exactement, voilà. Il y a pas mal de configurations qui sont évolutives selon qu'un club finisse 3e, 4e, 5e, que vous fassiez un tour préliminaire, pas de tour préliminaire, évidemment. Mais voilà, il y a pas mal d'équipes qui vont jouer à l'étranger, voilà, ou qui accueilleront des équipes étrangères. Vous allez avoir quand même des matchs entre des clubs de Ligue 1, ce qui est pas toujours, qui était un peu moins la tendance ces dernières années parce que les clubs n'avaient pas toujours envie de s'affronter avant le début de la saison. Donc on aura quand même des choses à proposer.
Mais c'est vous allez payer la production des matchs qui sont sur le sol français, c'est vous qui prenez tout en compte?
Oui, exactement. Nous, on va assurer la production. On regarde un peu les dispositifs de production qui sont possibles.
Je rappelle c'est que plus léger qu'un match de Ligue 1. Quand même.
C'est bien sûr plus léger qu'un match de Ligue 1, mais ce sera sûrement parfois un peu mieux produit peut-être que certains matchs qui avaient pu l'être les saisons d'avant. Donc non, on l'oublie, mais parfois, mais c'est nous qui produisons déjà les matchs. Hein. On produit les matchs de ce championnat, donc on a quand même une expérience, un savoir-faire, et savoir-faire, je veux dire, on va le mettre au bénéfice des matchs amicaux. Donc il y aura des matchs évidemment sur le territoire français qui seront produits par Ligue 1 Plus, et tous les matchs qui seront à l'étranger, les clubs ont la possibilité de récupérer le flux sur le territoire et dont il nous ferait bénéficier.
Vous avez évoqué la Ligue 3, alors vous ne pouvez pas tout dévoiler maintenant, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que voilà, il y a une certaine organisation, ce sera quel dispositif? Est-ce que vous, dans l'idée, vous voulez diffuser tous les matchs de National, donc la Ligue 3? On a entendu certains horaires, le jeudi soir et le samedi 15h. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors aujourd'hui, je ne peux pas en parler parce que il y a encore des discussions qui sont en cours. Encore une fois, on a des discussions qui sont plutôt positives avec la fédération, mais on a encore des discussions à avoir, y compris avec les clubs, donc pour le moment je ne peux pas donner d'éléments, si ce n'est que nous sommes très intéressés pour récupérer la Ligue 3, que les discussions sont très positives et on espère se taper dans la main dans les jours ou les semaines qui viennent, voilà. Mais et ce qui renforcerait, je dirais, notre positionnement comme la chaîne de référence du football français, voilà. C'est-à-dire que quand on parle de football national, voilà, sur le territoire français, bah, la Ligue 1, la Ligue 3, ça ferait quand même un tout petit peu sens dans notre histoire.
C'est complémentaire de l'Off Ligue 1.
Ce serait complémentaire de l'Off Ligue 1, exactement.
Et dernière question là-dessus, est-ce que ce serait traité de la même façon que la Ligue 1, la Ligue 3 du coup?
Alors nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, qui faisait partie aussi un peu du cahier des charges de la fédération, c'est d'un côté d'avoir un match un peu directeur premium, voilà, où pour le coup, on est assez d'accord avec ça, donc qui sera positionné, on verra sur quel créneau possible. Et voilà, nous, ce qu'on pousse aussi, c'est d'avoir un multiplex assez costaud sur la Ligue 3, parce qu'on pense que c'est un produit. On est fan de son club.
Mais on ne regarde pas qu'un match.
Mais parfois, on ne regarde pas qu'un match. Et je pense qu'on est capable d'attirer vers la Ligue 3 des gens qui sont abonnés pour la Ligue 1, parce que le produit qui sera proposé est sympa sur un multiplex qui peut compter un certain nombre de matchs. Ça veut dire que vous allez avoir des buts très régulièrement. Donc vous allez découvrir en fait des lieux, des joueurs. Ça va être assez moderne. Ça peut attirer un public qui n'est pas un public nécessairement fan du club en question. Voilà, donc on pense qu'il y a un vrai potentiel.
D'accord. Bon, on va passer maintenant à la saison 1, puisque voilà, elle est encore en cours, mais elle va bientôt se terminer. On voulait savoir comment s'était passée la création de la chaîne, comment vous vous êtes organisé, combien de CV vous avez reçus, parce que depuis qu'on a annoncé votre venue dans l'émission, on a reçu pas mal de CV, nous. Le mien est en dessous de la table, si vous voulez. Mais voilà, comment ça s'est passé, la création? Est-ce qu'il y a eu énormément de problèmes? Qu'est-ce qui était le plus compliqué à gérer, hormis le timing? De quoi vous êtes fier? Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé de la manière l'histoire suivante. Nicolas Taverneau est arrivé à la fin du mois d'avril ou début du mois de mai. Il a fait le tour du marché. Voilà, on avait un sujet avec DAZN qui était en conflit avec nous. Donc, il a trouvé une solution pour sortir de ce conflit-là. Il a discuté avec tous ceux qui pouvaient être intéressés par des droits. Voilà. Et on n'a pas eu, en tout cas, d'offres qui étaient, ou de discussions qui étaient de nature à remettre en question la création de la chaîne. À partir du moment où on a décidé de créer la chaîne, donc on est au mois de juin, hein, on s'est retrouvé avec un peu moins de 2 mois pour créer la chaîne. Donc, on a parallélisé plein de sujets qui étaient assez importants. À la fois comment on allait produire, on va dire, nos émissions, parce qu'il faut quand même qu'on ait un studio, etc. Donc on a fait un appel d'offres auquel pas mal de chaînes, en tout cas de boîtes de production, ont souscrit. Et après, dans le même temps, nous, j'ai commencé à dessiner, je dirais, une structure de l'antenne. Voilà, qu'est-ce qu'on voulait mettre à l'antenne, quelle devait être l'identité de la chaîne. Il fallait que cette identité elle soit aussi un peu conforme, je dirais, à nos offres de tarifs qu'on allait avoir, qu'on ait un positionnement marketing qui soit un peu en rupture avec ce qui était. Donc on a décidé d'être la chaîne des clubs, parce que par définition, on est la chaîne des clubs, puisqu'on est on a la chaîne de la Ligue, mais aussi la chaîne des fans. Donc on a essayé de prendre, par exemple, des gens à l'antenne qui respirent la Ligue 1, voilà, ont un historique avec la Ligue 1, sont crédibles, sont légitimes sur la Ligue 1, et qui ont une forme de nouveauté, presque, je dirais même parfois, un peu de générosité, parce que tout ce qu'on pouvait être capable d'amener en convainquant les clubs notamment d'ouvrir les portes. Donc on a réussi à ouvrir les portes, chose qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. On est allé dans tous les vestiaires, on est allé dans les vestiaires du PSG, le premier match de la saison, on est dans le vestiaire du PSG quand les joueurs arrivent.
Vous n'étiez pas dans celui de Rennes et de Marseille pour le coup. Mais
alors, on y était avant le match.
Voilà. Pas après.
Après le match, on était dans celui de Rennes, mais pas dans celui de Marseille. Voilà. J'étais devant la porte et on a vu qu'il s'est passé les choses, mais on l'a compris qu'à posteriori. Donc voilà, ce qui a été assez fort, on a choisi assez vite après Media One pour nous accompagner sur la mise en place notamment de tout le dispositif magazine et des émissions. Dans la mesure où on produisait déjà les matchs, on avait quand même déjà une expérience, on avait déjà, je dirais, un workflow de gestion des flux, d'envoi des flux, etc. qui était intéressant. Donc on avait à la fois un challenge éditorial, un challenge de production et on avait aussi un challenge technique qui était lié, comment dire, à la plateforme que nous devions choisir. Donc on avait choisi, on s'est associé à Endeavor qui est une plateforme sur étagère digitale qui nous a permis en fait de devenir aussi une plateforme. On a créé les réseaux sociaux, on a fait le choix de créer les réseaux sociaux dédiés à Ligue 1 Plus parce qu'on sait que les réseaux de la Ligue 1 doivent parler de beaucoup de choses, y compris de la compétition. Là, on s'est dit qu'on pouvait davantage parler peut-être des coulisses de la chaîne et en même temps pousser tous les éléments, le near live, les extraits de match, etc. Et puis après, il y avait la question de la distribution, voilà, qui était un chantier aussi majeur.
C'était le plus
majeur.
Gros chantier, la distribution.
C'était un très gros chantier, voilà. C'était un très gros chantier qui a été porté par Tatiana Gova chez nous, qui l'a mené de main de maître. Et donc derrière, tout était parallélisé. On avait un chef d'orchestre qui était Nicolas. On a avancé tout. Je vais pas vous dire qu'on n'a pas eu quelques sueurs froides. Je me rappelle une réunion 2 ou 3 jours avant l'ouverture de la saison où on avait presque 3-4 secondes d'écart de latence entre le stade.
Le N-1, ce qu'on appelle le N-1, c'est ça, exactement. Le décalage entre le studio et le stade.
Exactement, on avait un décalage, donc on s'est dit comment ça allait se passer, on a trouvé les solutions au dernier moment, tout le monde s'est retroussé les manches et au final on n'a pas eu de problème technique. Voilà, on n'a pas eu de problème particulier au moment du lancement, on a juste eu je crois de mémoire sur une plateforme le direct, l'avant-match qui a démarré un petit peu plus tard, mais puis derrière on a déroulé quoi et on a plutôt bien déroulé. J'ai quand même le sentiment qu'au final les gens qui sont abonnés sont plutôt contents du produit qu'ils ont, donc c'est un motif de satisfaction.
Sur l'ensemble de la rédaction, est-ce que vous pouvez nous dire combien de journalistes ça comprend, combien par exemple de chefs d'édition, combien de présentateurs, de consultants, de programmateurs, combien de personnes travaillent du coup sur Ligue 1 Plus ?
Alors c'est difficile parce que voilà, aujourd'hui on est une chaîne qui émet au réel en direct, je parle le vendredi, le samedi, les dimanches, donc les moyens sont concentrés sur le week-end. À l'antenne, on a aujourd'hui une vingtaine de personnes, voilà, même un peu plus, je dirais presque une petite trentaine de personnes, entre les consultants plateau, les consultants bord terrain, les consultants commentateurs. Et puis après, les journalistes qui sont amenés à commenter, à être en bord terrain également, ou, je dirais, éditorialistes, journalistes un peu avec une spécialité, je pense à Swan Borsellino notamment, qui est un peu notre monsieur tactique aussi. Voilà, donc tout ça, ça je dirais, l'antenne, ça, c'est à peu près une petite trentaine de personnes. Et puis après, vous avez la rédaction, plus toute la production, la post-production, donc qui sont plutôt du côté donc, des équipes de aujourd'hui qui sont chez Media One, mais avec lesquelles on travaille au jour le jour. Ils sont chez nous la semaine et ils sont le week-end en studio. Quand je dis chez nous, c'est à la Ligue. Et là, je dirais, il y a une vingtaine de personnes, quelque chose comme ça, 20-25 personnes.
Vous avez parlé de Media One, la collaboration va continuer la saison prochaine avec eux.
Oui, tout à fait. La collaboration.
C'est exactement pareil. Même plateau, même...
Alors, sur le plateau, on réfléchit en ce moment, voilà, à faire évoluer le plateau, comment on est capable peut-être de l'optimiser. Donc, faut quand même... voilà, je tiens aussi à relever le challenge que Media One a eu à réaliser, parce que, voilà, on a dû sortir un plateau Ligue 1 Plus en un mois, parce qu'il a fallu valider d'abord les logos, l'univers graphique, etc. Donc, tant que vous ne leur donnez pas tous ces éléments, bah, vous ne pouvez pas avoir un plateau voilà, qui est livré. Le plateau, il a été livré le jour même. Voilà. Donc, la table... voilà,
le filage, c'était compliqué.
Le matin ou le midi, voilà, elle arrivait, voilà, on installait tout. Donc, et ils ont été au rendez-vous. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on aurait, si on avait eu plus de temps, qu'on aurait mieux fait. Donc, on pense qu'il y a des améliorations qui sont possibles et on travaille là-dessus.
Alors, tout à l'heure, on faisait la blague des CV. Vous en avez reçu combien en ce début de saison ?
Je pourrais pas dire tellement j'en ai reçu. Ouais.
D'accord. Et du coup, est-ce que sur la saison à venir, il y aura une augmentation voilà, du nombre de personnes qui pourraient travailler pour la chaîne, notamment au niveau de la rédaction ? Voilà, c'est une ambition parce qu'il y a quand même un match sûr, puisqu'il y en, il y en a 9 sur 9 en Ligue 1. Peut-être avec la Ligue 3, voilà, est-ce que vous comptez recruter à nouveau ?
Alors, on ne va pas recruter énormément. Faut être clair. Nous, on sera ISO moyen. Quoi qu'il arrive. Donc c'est à nous en fait de mieux, je dirais, redéployer nos moyens. Il y a peut-être des choses qu'on n'a plus besoin de faire et d'autres choses qu'on a besoin de faire différemment. Voilà. On a le souhait d'avoir des nouveaux visages à l'antenne. Voilà. Pas nécessairement beaucoup, mais peut-être de se renforcer parce que voilà, ça c'est une information qui a pas. Je ne crois pas qu'est filtré ou été particulièrement commenté. On aura notre magazine le dimanche, à la fois en access et en débriefing. En débriefing, je pense que ça n'a jamais été dans l'histoire, qui seront en gratuit, voilà, en clair. Donc voilà, on a besoin. Voilà, ça va être aussi un moyen pour nous de faire connaître encore plus fortement la chaîne, d'attirer un maximum, je dirais, de fans de foot, pour que ces gens-là basculent vers l'abonnement. Donc on a besoin de se renforcer, je pense, sur ces cases-là en particulier. Puis l'année prochaine, on l'a dit aussi, vous allez avoir le samedi, le match donc, de 17h va être décalé à 17h15, voilà, pour des questions, parce qu'on espère peut-être avoir un peu de foot à 15h. Et donc, entre 17h15, entre le match de 17h15 et les matchs qui auront lieu en multiplex et aussi en stand-alone à 20h45, vous avez quand même un espace qui est assez long. Donc là, on a aussi besoin de se renforcer, on va pouvoir pousser les choses. Et donc, on aura besoin d'avoir des visages aussi peut-être un peu plus identifiés.
Est-ce qu'il y aura un consultant star, enfin une tête d'affiche plus impressionnante qui parle à beaucoup de monde, ou on reste avec les consultants qui sont très bien, mais est-ce qu'il y aura une star
On est content de nos consultants, voilà, mais on ne s'interdit pas d'aller chercher peut-être des gens supplémentaires. Voilà. Et toujours en respectant voilà, notre budget, à budget.
Et vous avez souvent parlé de l'histoire qu'il faut recréer entre le public et la Ligue 1. Le public a souvent été passionné par la Ligue 1, qu'il était un peu moins ces dernières saisons avec les problèmes de diffuseurs. Est-ce que, lorsqu'on regarde à la J31, à l'aube de la J31, est-ce que vous êtes content de l'histoire que vous avez recréée avec le public ?
Nous, on avait je dirais, trois challenges vis-à-vis des clubs. Le premier challenge, c'était de revaloriser la Ligue 1. Voilà. Et je pense que le produit audiovisuel s'était dégradé. On voyait que même si on avait des bons indicateurs sur le digital ou sur les réseaux sociaux, ils n'étaient pas toujours en adéquation avec le nombre de personnes qui s'abonnent ou qui consomment, comment dire, la Ligue 1 en direct. Donc ça c'était la première chose qu'on voulait faire. Donc ça, je pense qu'on l'a plutôt réussi. La deuxième chose, c'était de voir si Ligue 1 Plus permettait en fait de reconstituer un peu de revenus quand même pour les clubs. Ça va être le cas cette année. Je ne peux pas partager ce qui sera réalisé, mais c'est un peu mieux que ce qui avait été projeté. C'est loin de ce que les clubs avaient.
Petite fourchette quand même, petite idée.
On a plus de 150 millions.
On sera plus ou moins autour de cette somme-là. Et après, le troisième, c'est d'avoir, une projection qui fasse que le modèle soit soutenable dans la durée. Et donc, le fait de récupérer le 9e match, je pense que c'est un moyen aussi de reconquérir les fans. Voilà. C'est-à-dire, à un endroit, on aura l'intégralité de la Ligue 1. Je pense qu'on ne mesure pas que ça n'a jamais été fait, en fait. Donc, c'est à nous, en fait, de capitaliser dessus, de densifier, je dirais, notre offre éditoriale, que notre produit s'améliore dans l'expérience qui va être proposée, d'avoir une production qui s'améliore, pour que il y ait toujours plus de monde qui vienne. Moi, je pense qu'on a quand même aujourd'hui un socle de fans qui a été convaincu, et on espère qu'ils vont rester, et je pense qu'il y a des fans en conquête qu'on doit être capable d'aller chercher.
Et vous pensez que ce 9e match peut faire la bascule et vous emmener vers les 1,6, 1,7 millions d'abonnés
Est-ce que ce sera 1,6, 1,7 en année 2, 1,6, 1,7 en année 2, je pense que c'est pas obligatoirement ce qu'on avait présenté dans les projections, c'est quand même plus bas. Le 9e match est un game changer qui est quand même important, mais il y aura ce 9e match qui est majeur, mais il y aura aussi d'autres éléments pour nous qui sont importants, qui vont être, encore une fois, ce qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce qu'on a un droit supplémentaire, est-ce que la programmation est plus claire. Aujourd'hui, on voit bien que les consommateurs, ils sont pas abonnés à une seule plateforme payante, ils sont abonnés à plusieurs plateforme payante. Il n'y a rien de pire en fait que d'avoir un abonnement qu'on ne consomme pas à la hauteur de ce qu'on le voudrait. Voilà. Je pense qu'en ayant plus de clarté dans notre programmation, des affiches bien positionnées, une production qui s'améliore, en upgradant, je dirais, à la fois la qualité de nos consultants, peut-être aussi en améliorant peut-être nos émissions encore, je pense qu'on va franchir, on va gagner des centimètres, puis peut-être qu'à un moment donné, on va gagner des mètres qu'on va franchir, quoi. On n'aurait pas fait toute cette démarche si on ne pensait pas qu'on ne serait pas capable de la transformer. Maintenant, il va falloir convaincre aussi les fans et les fans, aujourd'hui, ils sont très contents de ce qu'ils ont, mais il faut qu'on en ait plus la saison prochaine.
Alors vous venez de parler des fans, on voulait aussi vous parler des clubs, vos relations avec les clubs, parce que vous le disiez, vous avez eu pas mal d'inside. C'est quoi vos rapports avec les clubs? Parce qu'on sait qu'en début de saison, tout le monde va jouer le jeu parce que tout est beau, tout est rose. Ouais. Que quand des clubs commencent à virer leurs entraîneurs ou que ça commence à descendre au classement, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que vous avez un message à faire passer au club? Parce que c'est la chaîne aussi, c'est leur chaîne de foot. Expliquez-nous un peu comment ça se passe avec les clubs. Est-ce que vous les appelez constamment? Comment ça se passe?
Alors, on s'appelle constamment. Voilà. on est en discussion permanente avec eux. Honnêtement, ça s'est quand même très bien passé. Voilà. Je peux pas. Il y a évidemment le lancement qui, par définition, va fédérer tout le monde, mais je pense que ça a plutôt joué le jeu tout au long de la saison. On n'est pas non plus hors sol, quand par exemple un club est dans une situation qui est compliquée, avec son public par exemple qui peut être qui peut le chahuter, etc. On essaie en fait d'adapter aussi nos demandes à la réalité du moment, mais même dans des clubs qui luttent pour le maintien, ou des clubs qui ne sont pas, complètement au rendez-vous de leurs ambitions, on n'a pas eu de silencio stampa, on n'a pas eu d'interdiction par exemple d'avoir des accès à minima les jours de match. Donc, le but, en fait, c'est de réussir plutôt en année 2 à ce que tout ce qu'on a initié cette saison en termes de tests, ça devienne, des habitudes en dur. Voilà. C'est-à-dire, dans la saison, il faut que les clubs soient prêts à ouvrir le vestiaire après un match en cas de victoire, deux ou trois fois dans la saison à minima. Voilà. Il faut pouvoir poser un micro à l'échauffement.
Vous allez faire signer une charte avec les clubs?
Tout ça, c'est évidemment des éléments qui sont au sein de la charte média, bien évidemment.
Et qui sera prolongée la saison prochaine? Il y en avait une cette année?
Il y a toujours une charte média.
Mais qui sera un peu plus...
Qui sera un peu étoffée pour la saison prochaine, exactement.
Okay.
Justement, nous, on s'amusait parce qu'on s'est dit, autant vous filer un coup de main comme vous venez là, pour la charte. Est-ce qu'il y a des obligations médiatiques pour tous les clubs, des invitations plateau, des interviews long format, des insides que vous essayez de négocier avec chaque club de Ligue 1 au moins une fois dans l'année? Est-ce que ça peut en faire partie de la charte?
Oui, alors après, avec les clubs, globalement, je pense qu'il n'y a pas de sujet ou il y a eu très peu de sujets pour avoir des joueurs en semaine, par exemple. Voilà. On en a eu un certain nombre. On aimerait toujours en avoir un peu plus et d'avoir toujours les plus grandes stars, mais on a eu quand même, Marseille nous a donné Greenwood, Pogba, on sait que si jamais il joue durablement, on l'aura, on aurait bien voulu avoir Dembélé, ce sera peut-être pour la saison 2, mais on a eu Vitinha, on a eu Safonov, peut-être que d'ici la fin, on a eu Zaïre Emery, peut-être d'ici la fin de saison, on en aura d'autres.
Luis Enrique, vous le voulez?
Luis Enrique, alors après, moi je mets les coachs à part. Voilà, aujourd'hui les coachs, ce sont, surtout quand ils disputent la Coupe d'Europe, je dirais que c'est les personnages qui sont le plus sollicités. Si on regarde, si on fait le compte des obligations médiatiques d'un coach, c'est assez délirant. Donc Luis Enrique, il donne pas d'interview individuelle. Je pense que c'est un principe.
C'est le défi
pour lui
de la saison 2.
Voilà, ce sera le défi de la saison 2, on va dire ça. On l'a. Il vient toujours, commenter après les matchs, bien expliquer, etc. Moi, je tiens quand même à souligner qu'il parle en français maintenant. Je trouve que c'est toujours louable que des joueurs ou des entraîneurs qui sont étrangers apprennent la langue. Voilà. On a connu des joueurs qui ont fait 4 ou 5 ans qui n'ont jamais été capables de parler français. On aimerait plus et on aimerait toujours plus avec les clubs qui sont les plus sollicités.
Et c'est quelque chose que vous voulez mettre en place dans la charte, ça par exemple, une obligation à signer par tous les clubs, parce qu'on sait que par exemple le diffuseur de la Première Ligue en France a un droit pour avoir des interviews régulièrement, des coachs, des joueurs. Est-ce que par exemple avec Luis Enrique, vous aimeriez pouvoir avoir au moins une interview par saison la saison prochaine avec lui?
Alors on peut pas dans une charte.
Ça se passe pas comme ça.
Ça s'organise pas comme ça. La charte, elle cadre à la fois les obligations domestiques, donc sur les matchs, les obligations internationales, donc pour les diffuseurs aussi internationaux, sur les matchs encore une fois, et après elle cadre, je dirais, sur tout ce qui est hors match, donc en semaine. Donc il y a des obligations, mais on peut pas faire une obligation ad nominem, tu vois. Encore une fois, oui, on aimerait bien avoir un entretien avec Luis Enrique. Est-ce qu'on y arrivera? On n'y arrivera pas. Aujourd'hui, je pense que je ne l'ai pas vu donner un entretien individuel ni en Espagne, ni en France, ni en Italie.
Il a fait une session Twitch il n'y a pas si longtemps que ça, mine de rien.
On va le faire venir sur Twitch.
Voilà. Écoutez, on va essayer de le faire venir sur Twitch alors.
on voulait aussi vous parler notamment des documentaires, parce que c'est une chose que vous avez voulu mettre en place avec notamment le Paris FC et Dante. Est-ce que vous êtes satisfait? Comment ça se passe? Vous auriez aimé faire plus aussi, parce que voilà, j'imagine qu'il y a un nombre d'épisodes voulus. Est-ce qu'il correspond à vos attentes?
Oui, là vous allez avoir la semaine prochaine le 4e épisode de la série sur le Paris FC, qui est très très dense, voilà, avec beaucoup d'accès. On a appris un peu à marcher avec eux, voilà. On a démarré la saison avec eux et avec un staff, une direction sportive qui a changé en cours de saison, avec un coach qui a changé en cours de saison. Moi, je tiens à souligner le soutien qui nous a été apporté à la fois par l'actionnaire, par la direction générale et la présidence, voilà, qui fait que on a eu des accès qui étaient quand même assez importants. Après, c'est un club qui n'était pas en Ligue 1 depuis longtemps, donc qui est dans une logique en fait de conquête de notoriété. Donc, on a plein de séquences hyper sympa. Là, vous verrez sur le 4e épisode, Antoine Arnaud nous accueille, donc on est avec lui, jour de match, on est dans ses bagages, quoi, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et donc voilà, vous verrez, il y a quand même pas mal de choses. Sur Dante, malheureusement, mais ça c'est le lot un peu de tous les choix qu'on fait, il a été pas mal blessé toute la saison, et c'est vrai que la saison a été difficile, mais bon, ils ont gagné hier contre Strasbourg, ils vont en finale de Coupe de France, donc potentiellement Dante peut finir sa carrière sur quelque chose qui peut être un titre, donc ça peut être assez exceptionnel. Donc voilà, ça, on aura également, je dirais, des épisodes qui termineront, on ira au-delà de la saison. Donc on aura 5 épisodes pour l'un, 4 épisodes pour l'autre. On aura les derniers épisodes qui seront proposés à l'issue de la saison. Donc pour ceux qui seront abonnés. Et on a fait aussi le choix de densifier notre été avec une série sur la saison tout court. Voilà, on va re-raconter la saison avec quelques témoins qui seront un peu classés, triés sur le volet pour vraiment avoir des gens qui vont nous apporter une lecture qu'on n'aurait pas eu a priori. On a pas mal d'images qu'on n'a pas toujours vu, donc des images exclusives qu'on va donner. Là, on part sur une série en 3 épisodes. Et puis, on a confié à quelqu'un, un ancien de chez vous, à Laurent Salvaudon, à la réalisation d'un documentaire sur la saison de Lens. Et on était le week-end dernier, cette semaine, avec eux aussi bien en championnat qu'en Coupe de France. On a des accès qui sont très, 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 très privilégiés. Et je pense que pareil, c'est une saison qui est assez exceptionnelle. Donc voilà, ça, c'est tout ce qu'on va proposer à partir du mois de juin à nos abonnés. On a encore 2-3 autres documentaires aussi qui sont en cours de finalisation. Donc on aura, je dirais, entre un ou deux programmes nouveaux à proposer chaque semaine sur la durée du mois de juin.
Et à partir du mois d'août, on aura 2 autres thèmes de série comme on a eu le Paris FC et Dante. Vous y réfléchissez ?
On y réfléchit, on est en discussion avec des clubs. Voilà, on est en réflexion aussi sur...
Est-ce qu'un Saint-Etienne qui remonterait en Ligue 1
ça peut nous intéresser. Ça peut nous intéresser.
Ça peut vous intéresser.
Ça peut nous intéresser.
Quel impact pourrait avoir pour vous un nouveau titre en Ligue des Champions pour le PSG et un titre de champion du monde pour l'équipe de France ? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un réel impact pour Ligue 1 Plus ?
Alors... je dirais que tous les titres sont positifs à prendre pour nous parce que ça montre la valeur de notre championnat. Je pense qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions est une compétition extrêmement importante, mais je pense qu'un titre de champion du monde a un impact sur le grand public qui est sans commune mesure avec un titre de champion d'Europe. D'abord parce qu'en fait l'équipe de France, en fait, elle fédère un peu tous les fans. Donc je dirais que si on est encore champion d'Europe, mais encore plus si on est champion du monde, je pense que c'est un vrai moyen, je dirais, de créer une attractivité supplémentaire. Et c'est peut-être un petit coup de vent dans le dos qui nous fera du bien. Et puis, il y a aussi quand même des logiques de calendrier. Si on est champion du monde, il me semble que c'est le week-end du...
la finale est 19.
Voilà, c'est le week-end du 18-19. Nous, on sera presque sur le début des matchs amicaux à ce moment-là. On aura, je dirais, tout notre calendrier qui va se dérouler sur le mois d'août. Donc, voilà, il y aura sûrement un élan. Je pense que cet élan peut être extrêmement, extrêmement intéressant pour nous.
Et juste une petite précision, lorsque vous parlez des matchs amicaux que vous allez diffuser, il y a aussi la possibilité d'acheter un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, de Conference League, d'Europa League,
alors,
vu
oui,
qu'ils ne sont pas dans les droits
tout à fait, ça c'est l'objet de discussion avec les clubs.
Okay.
Voilà. Donc tous les clubs...
Il y a aussi possibilité d'avoir ces matchs intéressants.
Tout à fait, exactement. Voilà. Donc ça vaut pour potentiellement 2 matchs en C1 et 2 matchs en C4, en sachant qu'on ne sait jamais, hein, on peut peut-être avoir en plus de clubs en Coupe d'Europe la saison prochaine que prévu. Ouais.
Dernière question sur la saison qui s'est écoulée et qui va nous amener à la saison prochaine. Il y a eu le calendrier avec notamment le report du match de Marseille-Paris et puis la session du Ballon d'Or et puis la demande des clubs qui jouaient la Coupe d'Europe décaler certains matchs. Quel impact ça a eu pour vous ? Comment vous avez pu gérer ça ? Est-ce que c'est dérangeant pour un diffuseur de faire ce genre de choses ou pas ?
Alors, si je prends le premier classique, donc qui avait été décalé pour les questions d'intempéries, puisque il y avait des pluies très importantes à Marseille, on a fait une audience et un nombre de recrutements.
C'était mieux le lundi que le dimanche.
Le lundi qui était exceptionnel. Non, je pense qu'on a fait mieux le dimanche. Pour être honnête, je pense qu'on aurait fait mieux le dimanche, parce que le dimanche soir, il y a plus de monde devant la télé, hein, c'est juste des effets mécaniques, mais ça, je ne crois pas que ça nous ait particulièrement pénalisé, et même, ça n'a pas été tellement commenté, mais sur la durée, parce qu'on était face au Ballon d'Or, avec le Ballon d'Or qui allait être attribué à Ousmane Dembélé, sur la durée du match... On est le premier programme de France, voilà. On est la première chaîne, on est devant le Ballon d'Or. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un intérêt pour la Ligue 1. Alors évidemment, on est en début de saison et on ne savait pas comment allaient se passer les choses, qui étaient quand même extrêmement fort.
Après, juste une petite question, ouais. Sur un PSGOM, vous prenez combien d'abonnés ?
Alors, c'est compliqué de faire un calcul précis.
Mais c'est vraiment très impressionnant ?
Oui, c'est un vrai, c'est un vrai boost, voilà. Donc,
c'est plusieurs centaines de milliers de...
Alors, centaines de milliers, ça dépend quand est-ce qu'il est positionné. Si vous le positionnez dans les toutes premières journées, ce qui n'est pas le cas, quand bien même là on était à la 5e journée, non, c'est des dizaines de milliers d'abonnés.
Et donc l'année prochaine, vous avez aussi envie de l'avoir au début pour pousser les abonnements. C'était la stratégie de cette saison.
Cette saison, ouais. La stratégie, c'était d'avoir deux top 10 dans les 5 premières journées. Voilà. Donc on avait eu l'Olympique en 3e journée et on avait eu le Classique en 5e journée. Vous l'aurez noté, on aura un calendrier international l'année prochaine qui ne va pas être le même, puisqu'il y a une trêve internationale qui saute.
Octobre.
Donc l'année dernière, enfin cette saison, on avait donc 3 matchs de championnat, une trêve internationale, puis après on avait redémarré. Là, on va avoir 5 matchs à la suite. Donc la question, ce sera de voir où est-ce que sera positionné, comment dire, le Classique. Est-ce qu'il doit être avant, après? Voilà, je pense qu'il y a des arguments des deux côtés aujourd'hui.
Donc la trêve internationale de septembre-octobre, la saison prochaine sera du lundi 21 septembre au vendredi 9 octobre. Est-ce que par exemple, c'est à ce moment-là que vous pourriez aussi diffuser des nouveaux épisodes de vos nouveaux programmes? Comment vous avez déjà
déjà
ça?
Tout à fait. On n'a pas parlé aussi d'un programme quand même qui est important. On a un programme aussi pour les enfants. Voilà.
Sur Gulli notamment.
Sur Gulli, mais qui est aussi chez nous. Voilà. Donc voilà, ça fait partie, je dirais, de l'offre qu'on a proposée dans la globalité de l'offre. Oui, évidemment. Nous, notre but, c'est d'avoir, comment dire, des feuilletons. Et si on veut feuilletonner, le mieux, c'est d'avoir, comment dire, des épisodes récurrents. On aura déjà, je dirais, tout ce qu'on a fait cette saison-là, qu'on sera amené à rediffuser la saison prochaine, parce que ça a quand même un intérêt. Donc, on va densifier progressivement, je dirais, notre programmation, notamment en semaine et ou avant, autour des matchs, parce que c'est aussi important d'avoir des programmes différents, de ne pas avoir que du direct.
Alors, on va parler de la saison prochaine avec notamment les nouveaux horaires que vous avez annoncés, hein, avec des prime time le vendredi, samedi et dimanche à 20h45. Des matchs aussi, on vous a fait une petite infographie pour qu'on puisse l'avoir visuellement. Hein. Des matchs le samedi à 17h15, des matchs le dimanche à 15h, à 17h15 également. Ouais. Et donc l'affiche. Nous, on avait une question avec Nico en regardant ce calendrier-là. On s'est mis dans la peau d'un club, par exemple européen, qui pourrait jouer finalement le jeudi, donc l'Europa League ou la Conference League. Ces clubs-là, Si on se calque sur le calendrier de cette saison, ils devraient jouer dans le multiplex. Est-ce que ce sera le cas ou pas? Et dans ce cas-là, si c'est le cas, c'est-à-dire le samedi à 20h45, ça fait très peu de temps entre leur match le jeudi de Coupe d'Europe et le samedi.
Alors, si on regarde sur la saison, non, on a fait le même exercice. Il faudrait qu'on soit... on aurait dû décaler deux fois le multiplex du samedi 20h45 au dimanche 17h15. C'est-à-dire que si à un moment donné on est dans l'impossibilité de programmer, parce qu'on doit respecter les temps de récupération des joueurs, évidemment une équipe qui a joué le jeudi ne jouera pas le samedi, elle jouera le dimanche. Donc si par exemple, alors souvent dans la programmation, la direction des compétitions fait en sorte de favoriser, je dirais, dans les matchs qui sont postérieurs à des matchs de Coupe d'Europe, des affrontements entre clubs européens, qui ont disputé des matchs en C3, en C4. Donc si jamais, par exemple, on se retrouvait dans la situation où on est dans l'incapacité matérielle de jouer, de programmer tous les clubs qui sont en C3, C4, le dimanche, j'espère que je suis assez clair. Dans ce cas, en fait, on décalerait le multiplex le dimanche à 17h15. Donc, on aurait, sur la saison, ça aurait été deux fois. Donc, ça veut dire que si on se projetait sur la même saison, telle qu'elle s'est déroulée cette année, sur la saison prochaine, on aurait 30 fois dans la saison le multiplex qui serait à 20h45. Deux fois qui serait le dimanche à 17h15, puis vous avez les deux multiplex qui sont la J33 et J34 qui sont en fin de saison. Donc voilà, ça dépendra évidemment du nombre de clubs qui sont en C3, C4 et de comment se déroule la saison.
Et si on prend la saison prochaine, vous l'avez un petit peu évoqué, mais est-ce qu'il y a le but aussi de remplir un petit peu la grille en semaine? Je ne sais pas, d'avoir une émission débrief le lundi, de peut-être avoir une émission... le vendredi, vous avez déjà le match, mais peut-être de remplir un petit peu la grille pour muscler l'offre Ligue 1 Plus la saison prochaine.
Alors, on a testé pas mal de choses. On a lancé une émission avec Nicolas Villas, Oussem Moussaïef et avec Thibaut Djangrande il y a à peu près deux mois, je dirais, où tous les jeudis soirs, on présente un peu la journée à venir. C'est le SAV de la Ligue 1, le service avant vente, voilà. Est-ce que ce sera encore jeudi? Est-ce que ce sera sur une autre date? C'est les choses auxquelles on va réfléchir. Donc on a déjà quelque part un programme sur lequel on capitalise aujourd'hui, sur lequel on travaille, qui peut, comment dire, s'installer la saison prochaine. Voilà, c'est des choses auxquelles on va réfléchir. Rien n'est arrêté encore pour le moment, mais c'est des choses qui sont aujourd'hui envisagées. Ce qu'on souhaite aussi, c'est d'avoir peut-être un ou deux programmes nouveaux, un peu originaux, qui ne sont pas nécessairement des programmes linéaires, tels qu'on les entend, qui peuvent être des programmes plus digitaux, qui ont vocation en fait à être sur l'antenne. Voilà, donc on a quelques idées, quelques discussions actuellement. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas assez avancé pour pouvoir vous les partager.
Mais lorsque vous réfléchissez à ces programmes, est-ce que vous venez de le dire, mais est-ce que le digital est d'abord est en priorité sur le linéaire ?
Toujours.
Toujours maintenant ?
Toujours. En tout cas, dans l'idée de création, oui. Oui, parce qu'on est une plateforme. Voilà, on voit bien. On a 2/3 de nos abonnés sont quand même sur des plateformes. Voilà, que ce soit Ligue 1+, Amazon, DAZN, voilà.
Donc
RMC Sport, bien évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut aussi proposer des produits qui correspondent, comment dire, à l'usage des gens. Ce qui ne veut pas dire qu'on maltraite le linéaire. On a fait des chaînes en linéaire aussi pour les FAI, aussi pour des plateformes de streaming qui le souhaitaient. Mais je pense que dans le format, à mon avis, il faut beaucoup plus aller chercher du côté du digital que du côté de ce qui est fait traditionnellement par les chaînes de télé payantes.
Vous n'avez pas, c'est peut-être une question piège, mais vous n'avez pas un profil type de l'abonné Ligue 1 Plus ?
Si, l'abonné Ligue 1 Plus. Alors moi, je peux parler uniquement aujourd'hui parce qu'il y a quand même des logiques de RGPD. Voilà, on n'a pas, on peut pas avoir accès aux données de nos abonnés sur les autres plateformes. Il y a quand même une intermédiation aujourd'hui qui est faite par les distributeurs. Comme nous, on distribue aussi notre abonnement. Voilà, on a quand même un volume d'abonnés assez important qui nous permet en fait de dresser un peu le portrait. C'est un homme de 37 ans. Voilà, qui aujourd'hui est abonné à Ligue 1 Plus. Alors, je dis une bêtise, c'est un homme de 47 ans.
Il a pris 10 ans.
C'est un homme de 47 ans. En revanche, on est extrêmement bien équilibré entre les abonnés qui sont entre les 18-25, entre les 25-49, entre les 55-66 et les plus de 66 ans. Voilà. On a une représentation à peu près de toutes les catégories d'âge. Les abonnés sont majoritairement des abonnés qui suivent à la fois Marseille, Paris, Lyon, voilà, qui sont les trois clubs qui sont les plus gros drivers. Il y a aussi des abonnés qui n'ont pas de club de cœur, voilà, qui représentent aujourd'hui un pourcentage aussi important. Voilà. Tous les clubs aujourd'hui sont représentés. Il y a des gens qui s'abonnent évidemment parce qu'ils suivent leur club. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on discute avec nos abonnés. Donc, on leur a fait 4 fois cette saison. On leur demande ce qu'ils pensent de l'antenne, ce qu'il faut améliorer, etc. L'indice de satisfaction, il est excellent. On a 92% de gens qui sont satisfaits. Donc, c'est quand même des chiffres que dans d'autres médias qu'on a pu connaître, que moi j'ai pu connaître, qu'on n'avait pas nécessairement. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a ce niveau de satisfaction qu'on doit pas quand même travailler pour l'améliorer. Donc oui, on a des éléments sur qui sont ce sont des hommes, voilà, majoritairement, et plutôt jeunes, et plus jeunes, je dirais, que aujourd'hui les consommateurs sur l'abonnement, je dirais, en télé payante de sport classique.
Ok. Il y a une petite bouteille d'eau au cas où, hein, si vous voulez boire, on ne sait jamais, parce que depuis tout à l'heure, on vous assassine de questions. On voulait aussi savoir quel est votre regard sur la consommation du foot maintenant, parce qu'on voit que voilà, il y a plusieurs émissions phares sur différentes chaînes qui sont en difficulté. Est-ce que, évidemment, c'est rentré dans votre façon de travailler ? Est-ce que voilà, il y a des perspectives d'évolution, vous, dans la consommation de Ligue 1 Plus chez vos abonnés ? Quel est votre regard justement sur cette façon de consommer le foot maintenant aujourd'hui en France ?
Bah, on voit que je pense que tout a changé. Voilà, il y a 20 ans.
La consommation, elle a changé, vous voulez dire ?
Oui. Ouais. Il y a 20 ans, on se retrouvait chez les copains pour regarder un match. Aujourd'hui, les gens ont tendance un peu à le regarder chacun chez soi, quoi. Ils se réunissent sur des grands matchs, un classique, l'équipe de France de foot qui va affronter un adversaire européen prestigieux en demi-finale, c'est plutôt dans ces cas de figure. Ça reste quand même un spectacle familial, voilà, donc qui est partagé. Voilà, on a quand même souvent un père et son fils, un grand-père et son fils et son petit-fils qui vont partager cette passion-là et cette consommation presque en direct. Donc ce qui a changé pour moi, c'est plutôt qu'il y a une dispersion aujourd'hui des audiences. Et donc, il faut aller chercher les audiences un peu partout. Il y a plein de communautés. On s'adresse pas toujours de la même manière auprès d'un public versus un autre. Donc, nous, ce qu'on veut faire, et c'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, je sais pas si je l'ai dit de manière suffisamment explicite, nous, pour la saison 2, il faut qu'on soit sur la route de tous les fans de foot. Voilà. T'as 18 ans, t'es fan de Lorient, tu as 40 ans, t'as des enfants en bas âge, mais t'as quand même du pouvoir d'achat, t'habites dans une grande ville. Voilà, tous ces gens-là, tu es un retraité, t'adores le foot, voilà, tu aimes bien la chaîne, mais tu veux t'assurer quand même qu'on te propose des choses qui correspondent à ce que tu veux. Il faut que nous, on soit capable de faire une proposition qui touche ces gens-là, quel que soit leur mode de consommation. Donc ça veut dire qu'on doit être fort sur l'antenne linéaire, on doit être fort sur notre plateforme, mais on doit être fort aussi sur notre digital gratuit. Donc le gratuit et le payant doivent être travaillés de concert. Et dedans, moi je donne un statut particulier à notre chaîne YouTube, qui est pour moi aujourd'hui un peu le pivot entre notre offre payante et notre offre gratuite.
Et il faut pas raccourcir les matchs, faut pas
non
faire comme à la Coupe du Monde quoi.
Non, il faut pas raccourcir les matchs. Non, après nous au contraire, ce qu'on veut c'est plutôt
c'est la manière de raconter qui
ouais le storytelling c'est un élément qui est important. Nous ce qu'on essayait c'est d'être on l'a dit à la fois généreux mais également d'être légitime. Donc aller chercher un énorme consultant mais qui a pas de légitimité sur la Ligue 1, je pense que ça aurait été une erreur de mon point de vue. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui respire Ligue 1. On peut pas avoir un consultant qui regarde pas les matchs, c'est pas possible.
Et est-ce que vous vous inspirez, vous regardez je pense à l'étranger comment ça se passe à l'étranger, les diffuseurs à l'étranger, mais est-ce que on vient aussi se renseigner? Comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a des championnats étrangers qui sont venus se renseigner?
Alors écoutez, oui, je suis intervenu.
Lesquels?
Je suis intervenu auprès de l'UEFA, à la demande de l'UEFA, je crois que c'était en janvier ou en février, au Parc des Princes, auprès d'un certain nombre de leurs, à la fois d'étudiants, mais également de gens qui bossent chez des diffuseurs étrangers. Et là, début juin, je verrai tous les diffuseurs internationaux de la Ligue 1 qui veulent savoir comment on a monté Ligue 1 Plus, à la fois sur l'aspect éditorial, sur l'aspect distribution, sur le produit, sur le rapport digital, linéaire, gratuit, payant. Donc, on va le partager.
Est-ce qu'il y aura des nouveautés à prévoir sur les trophées UNFP qui auront lieu le 11 mai prochain? Est-ce qu'il y a de la nouveauté? Parce que bon, on sait que voilà, ça se fait généralement dans un cadre bien feutré, en costume. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements?
Alors, à des changements. Je laisserai à l'UNFP, qui est l'organisateur, donner des éléments qui relèvent de leur prérogative. Non, nous, ce qu'on va essayer de faire, il y a Marc Lasse qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui travaillait avec moi à l'équipe. Nous, on a géré pendant des années le Ballon d'Or, donc on a un peu d'expérience quand même sur les cérémonies. On va essayer d'avoir un tapis rouge qui soit un peu plus dense. Voilà. Donc ça, c'est les éléments aussi qui sont importants. Le lieu où on sera est un lieu vraiment chouette. Je ne peux pas vous dire quel est le lieu. Ce sera à l'UNFP de le dévoiler. Et après les cérémonies, il faut toujours faire attention à éviter les longueurs, voilà, parce que c'est un programme qui peut très vite devenir un peu indigeste, voilà, donc le but c'est plutôt d'avoir quelque chose d'assez rythmé où on va essayer de respecter au maximum la parité entre les hommes et les femmes, puisque voilà, il y a aussi les féminines qui auront des trophées, donc voilà, il n'y a pas de nouveauté particulière à part voilà d'essayer d'avoir un programme le plus dynamique possible.
Bon, il y aura en tout cas toutes les stars du foot français, tous les dirigeants du foot français ce jour-là. Du coup, ça nous a donné l'idée d'un petit quiz de fin avec Nico pour savoir, au niveau des présidents, on voulait savoir, par exemple, lequel a le plus demandé des codes Ligue 1+, par exemple, cette saison.
Aucun. Aucun. Voilà, il y a des joueurs qui ont demandé des codes, mais
ils les ont eu.
Non, ils les ont pas eu.
C'est pour payer, bah oui.
Bah, y a
c'est un business,
donné,
hein.
C'est leur salaire. Hein.
Voilà. Oui, c'est vrai.
Ils vont pas piquer dans leur portefeuille quand même.
Qui est le président le plus sympa?
Le président le plus sympa, il y en a beaucoup qui sont sympas. Je dirais que moi j'apprécie particulièrement Baptiste Malherbe.
Le plus charismatique?
le plus charismatique. Après, je les connais pas tous non plus par cœur, mais oh, c'est dur de dire. Ils sont tous. Il y en a plusieurs qui sont charismatiques. Voilà.
Le plus drôle.
Le plus drôle. Peut-être Arnaud Pouille.
Le plus dur en affaires.
Je pense que c'est plutôt du côté du PSG de Marseille.
Le plus ouvert aux médias.
Ah non, le plus dur en affaires, c'est aussi Olivier Létang.
De Lille, donc.
Le plus ouvert aux médias.
Le plus ouvert aux médias, je pense qu'il y a des clubs qui ont été vraiment hyper ouverts. Rennes, le Paris FC, Auxerre, Nantes, Marseille, Toulouse, Lyon, Metz. J'espère que j'en oublie pas. Ouais, Lens, évidemment, Lens très très ouvert aussi. Voilà, c'est Nice aussi a été assez ouvert malgré la saison qui est quand même compliquée. Voilà, je pense que ces clubs-là ont Monaco aussi a ouvert les portes. Donc non, c'est les clubs qui ont fait beaucoup pour nous.
Celui qui répond le moins au téléphone.
Qui répond le moins au téléphone. Je suis pas sûr qu'il y en ait un qui réponde moins au téléphone. Non, je pense qu'ils répondent à peu près tous. J'ai du mal à dire qu'il y en ait un plus qu'un autre.
Qui regarde le plus Ligue 1 Plus.
Écoutez, j'ai l'impression que tous nos présidents regardent Ligue 1 Plus. Même le président du PSG, voilà, lors du Trophée des Champions, était venu nous voir la veille du match. Les équipes étaient en train de s'entraîner et voilà, il nous a expliqué qu'il était un grand consommateur de Ligue 1 Plus. Donc, on était très contents.
Qui aime le plus passer sur Ligue 1 Plus?
C'est dur à dire. Ça dépend des résultats. Ça va, ça vient. Voilà. Mais globalement, il n'y a pas de demande. Les présidents ne demandent pas obligatoirement à être mis en avant. Voilà.
Vas-y. Qui porte le mieux le costume?
Chez nous?
Ouais.
Je voulais dire sur l'antenne ou
chez vous et puis parmi les présidents de Ligue 1.
Moi, je pense qu'ils portent tous très bien le costume. Voilà. Avec une mention spéciale, je dirais, à Adil qui est tout le temps très sapé, ou Guillaume Moirot. Voilà, Guillaume Moirot aussi qui a beaucoup de goût et qui est capable de trouver plein de costumes qui montrent la variété de ses envies. Et après, chez les présidents, je pense que les présidents portent bien le costume. Il n'y en a pas un mieux que l'autre.
Et le président qui a le plus changé d'avis sur Ligue 1 Plus ?
Joker.
Ah ouais, bah on n'a pas dit qu'il y avait des jokers.
On n'a toujours pas le prix de l'année prochaine.
Non, il n'y aura pas le prix.
Donc il y aura une évolution du prix, il y aura des matchs en plus, il y aura peut-être la Ligue 3, normalement c'est plutôt bien parti pour résumer.
On espère.
Il y aura plein de changements et des documentaires en plus. Merci beaucoup Jérôme Cazadieux d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne deuxième saison sur Ligue 1 Plus. Et puis nous on se retrouve dès la semaine prochaine avec un invité qu'on n'a pas encore mais qu'on va trouver évidemment. Allez, bonne soirée ou bonne journée comme vous voulez.